Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 5 juin 2024 et pendant 3 semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Dans cette matière, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique qui est omniprésent autour de nous, dans nos poches, nos habitats, dans les espaces publics, dans les administrations françaises. Et maintenant, avec le déploiement rapide de l'intelligence artificielle, cette explosion des outils numériques pose des questions éthiques, sociales, politiques, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et étudiantes ont étudié plusieurs problématiques en rapport avec le numérique à travers la lecture et l'écriture d'articles scientifiques. À la radio, ils et elles vous restituent une partie de ce travail. Je m'appelle Quentin et pour cette session, je suis accompagné d'Andrea, Even et Maxence. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Alors, vous avez choisi de traiter le sujet de la surveillance de masse par les services de renseignement en France. C'est un sujet assez méconnu du grand public. On a beaucoup entendu parler de l'affaire Snowden aux États-Unis, mais assez peu de ce qui se faisait en France. Donc Maxence, c'est toi qui commence et tu as choisi de lever le voile sur l'arsenal technique et légal qui encadre la surveillance par l'État en France. Alors du coup, de quels moyens dispose l'État pour surveiller un ou une citoyenne et à quelles conditions ?
Oui, en effet, comme tu l'as dit, la surveillance est encadrée par la loi, donc c'est légal en soi. En 2015, après le choc des attentats de Charlie Hebdo, l'État a souhaité renforcer l'arsenal législatif de nos services secrets. Cette loi, elle est très axée technique, elle aborde les dispositifs et les services que les services peuvent utiliser et dans quel cadre. Alors, il existe 4 catégories d'accès à ces moyens. Le premier, c'est l'accès administratif aux données de connexion. Ici, ce sont les métadonnées de connexion qui sont concernées. Donc, qui est-ce qu'on a appelé, à quelle heure, où. Et ce sont en fait les fameuses fadettes que l'on peut revoir dans les séries policières, notamment. Enfin, la seconde catégorie, ce sont les interceptions de sécurité. Donc, c'est toujours dans le cadre de la communication. Et contrairement à la précédente catégorie, ici, on rentre vraiment dans le cœur de la conversation. Donc, on écoute en fait ce que les personnes se disent. Et enfin, dans le cas où ces communications sont cryptées, des services de renseignement peuvent mettre en place des moyens de captation de parole, d'images ou de recueil de données informatiques dans les lieux privés. Donc par exemple, installer un mouchard sur notre ordinateur, ce mouchard pourrait capter ce que l'on tape sur notre clavier par exemple. Bien évidemment, pour installer ce mouchard qui est dans nos espaces privés, les services peuvent s'introduire chez nous et c'est également prévu par la loi.
Mais alors, c'est quoi globalement les dispositifs qui fournissent les données aux services de renseignement ?
Alors, dans certains cas, ce sont des services de renseignement qui récupèrent les données via des balises GPS ou bien des IMSI catchers. Un IMSI catcher, c'est une antenne relais factice auquel notre téléphone va se connecter. Et dans une zone limitée, l'IMSI catcher permet de récupérer toutes les données de communication ou d'intercepter des conversations. Mais ce sont surtout les opérateurs téléphoniques qui fournissent des informations ou qui permettent aux services de renseignement d'installer des moyens de collecte d'informations.
Alors on a tout cet arsenal technique que les services de renseignement peuvent utiliser pour surveiller des communications, mais quelles sont les dispositions qui encadrent cette utilisation ? Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle ou est-ce que c'est carte blanche ?
Alors les services n'ont pas carte blanche. Lors de la publication de la loi, 2 organismes ont été créés, et donc la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, et le groupement interministériel de contrôle qui est lui, et sous le Premier ministre. Ces 2 organismes donnent des autorisations aux services de renseignement pour utiliser un dispositif technique particulier. Ils fixent également le nombre d'autorisations possibles par moyen. Et pour illustrer les enjeux autour de cette loi, je vous propose d'écouter ce court extrait audio qui date de 2015, l'année de promulgation de cette loi.
En réalité, les agents des services de renseignement pratiquent déjà ces mesures de surveillance. Mais leur enquête est contrôlée par un juge, un homme qui ne dépend ni de la police, ni du gouvernement. Or, la nouvelle loi prévoit de remplacer ce juge par une nouvelle agence, chargée de contrôler le travail des services de renseignement. Cependant, de nombreux juges estiment que cette nouvelle agence ne sera pas vraiment indépendante du gouvernement. Ils affirment qu'avec cette loi, le gouvernement pourra surveiller n'importe qui, sans avoir à s'expliquer. Les services de renseignement auraient donc le pouvoir de surveiller des terroristes, mais peut-être aussi des opposants politiques ou des journalistes. C'est pourquoi certains estiment que cette loi est liberticide, c'est-à-dire qu'elle menace notre liberté. Difficile en effet de se sentir libre si un gouvernement a le pouvoir de surveiller tous les citoyens, même s'ils ne commettent aucun acte illégal.
Donc, comme on a pu l'entendre dans l'audio, les pratiques qui ont été autorisées par cette loi étaient déjà utilisées avant celle-ci. Et cela a été notamment abordé dans un article du journal Le Monde datant de 2015. Cet article révélait des serveurs de calcul branchés sur les routeurs Internet des opérateurs téléphoniques. Ces serveurs pouvaient collecter les informations de tout utilisateur du réseau. Aujourd'hui, aux yeux de la loi, cette pratique est légale, dans le cas de menaces terroristes notamment. Enfin, il faut également remettre la loi dans son contexte de juillet 2015. La France était dans un contexte de menaces terroristes intenses. Nous étions seulement quelques mois avant les attentats de novembre 2015. Et celle-ci, elle a été conçue pour repérer les terroristes, et c'était son premier objectif. Au-delà de ce point important, il faut aussi rappeler que la précédente loi en matière de renseignement datait de 1991. Celle-ci était complètement dépassée et elle ne parlait pas de réseau mobile et encore moins d'Internet. Enfin, comme indiqué dans l'audio, avec la précédente loi de 91, l'ensemble des actes de renseignement d'origine technique, c'est l'objet de cette loi, devait être approuvé par un juge. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ces actes sont validés par le JIC, qui dépend directement du Premier ministre. Et la commission de contrôle, la fameuse CNCTR, n'a qu'un droit de regard sur les décisions du JIC. Sans oublier les différents niveaux du plan Vigipirate, qui peuvent également faciliter les démarches des services de renseignement. Pour finir, la loi autorise la surveillance ciblée sur un individu, mais les moyens inscrits dans cette loi permettent la surveillance de masse.
Merci beaucoup Maxence pour cette présentation. Pour la suite, on va parler d'intelligence artificielle. C'est toi, Andrea, qui va nous en parler, parce que évidemment, on a des moyens qui permettent d'intercepter de plus en plus des données, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle change complètement la manière d'envisager le traitement de ces données et même la reconnaissance de certains comportements. Donc, c'est déployé de plus en plus. Et donc, ça pose énormément de questions éthiques et juridiques. C'est à toi, Andrea.
Alors, tout à fait. Donc, je vais maintenant vous expliquer un petit peu les rôles et les usages de l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans le domaine de la surveillance. Alors, la surveillance de masse par les services de renseignement est devenue une pratique très répandue après les attentats du 11 septembre 2001, où les États-Unis ont adopté une approche selon laquelle tout le monde pouvait être surveillé pour fournir des informations aux forces de sécurité. Donc, la plupart de ses alliés, dont la France, a suivi cette façon d'opérer. Cependant, collecter des millions de métadonnées par jour sur les Français, mais pas que, génère des quantités énormes qui doivent être analysées. Donc de là, elle est née la nécessité d'un système ayant des capacités d'analyse de données considérables, donc n'étant pas faisable par l'être humain. Et les services de renseignement se sont tournés vers l'IA. Donc les services de renseignement français, tels que la DGSE, utilisent aujourd'hui en partie Palantir, donc c'est un logiciel américain. Cependant, l'utilisation d'un logiciel étranger peut provoquer la captation de données des Français par les Américains. Et puisque la France ne fait pas partie de l'alliance Five Eyes, elle n'a aucun intérêt à partager gratuitement ces informations collectées avec les États-Unis.
Juste pour préciser, l'alliance Five Eyes, c'est...
C'est une alliance anglophone de surveillance, donc qui consiste des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Et le dernier, je n'ai pas le dernier, le Canada.
Ok, voilà, du coup, ils partagent des données entre...
Ils partagent les données, les données captées par un des membres des Five Eyes doivent être partagées avec le reste des membres.
Ok, merci.
Donc voilà, la France n'en fait pas partie, elle n'a aucun intérêt à partager ces informations avec les États-Unis. Elle s'est donc tournée vers des solutions souveraines, dont Preligence, donc ce qui est spécialisé dans le traitement d'images satellites par les agences de renseignement. Donc en effet, le logiciel peut reconnaître des différents matériels relatifs à la guerre, donc que ce soit type de bateau, sous-marin, bâtiment, etc., sur une photo satellite d'un port par exemple. Donc nous allons écouter un petit extrait d'une interview sur France 24 de Renaud Alliou, donc le cofondateur de Preligence, et son vice-président Grégoire de Saint-Quentin, un ancien commandant des opérations spéciales. Et Renaud Alliou va expliquer la valeur ajoutée de l'IA dans le domaine de la défense. On écoute ça tout de suite.
Militaire. Voilà. C'est quoi la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans votre business ?
Alors, exactement comme l'a dit Grégoire, les armées et les opérations sont soumises un petit peu à le même phénomène qu'on a dans le civil, nous en tant que personnes, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de capteurs, on appelle ça des devices, de plus en plus d'objets électroniques ou plus ou moins informatiques qui vont récupérer de la donnée. Et la valeur ajoutée, nous, c'est qu'on puisse traiter cette donnée pour la valoriser. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un humain derrière chaque capteur, chaque source de données. Le nouveau blindé de l'armée de terre, il va récupérer, je crois, plusieurs téras par jour de données avec des caméras, des interceptions électromagnétiques, différentes choses. Et donc, bah, nous, la valeur de l'IA, c'est vraiment de traiter cette donnée pour ressortir l'information et l'envoyer à l'analyste ou l'envoyer au décideur ou l'envoyer au commandant. Là,
alors voilà, nous venons d'écouter Renaud Alliot. Alors cependant, l'IA n'est pas parfaite et présente encore beaucoup d'aspects négatifs qui éclipsent son efficacité. Donc tout d'abord, l'analyse des données, telle que j'ai expliqué plus tôt, demande une utilisation massive de l'IA en continu. Et cette pratique a une sobriété énergétique catastrophique. Donc à titre de comparaison un peu à notre échelle, ChatGPT estime qu'une requête sur son outil émet en moyenne 285 grammes de CO2, donc qui est l'équivalent environ de 2 km en voiture, contre 7 grammes pour une requête Google. Donc cependant, il est important de noter que la consommation énergétique réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la complexité de la requête, la durée de la conversation et la charge de travail du système au moment de la requête.
Donc là, la comparaison avec ChatGPT, c'est parce que c'est aussi de l'intelligence artificielle.
Voilà,
on imagine que ça pourrait être des trucs un peu similaires pour les IA des services de renseignement.
Tout à fait, okay. C'est ça. Alors, en plus, les IA qui sont utilisées par les services d'enseignement requièrent des data centers immenses, des centres de calcul immenses et des coûts de maintenance qui sont inimaginables pour nous. Donc, les data centers et les centres de calcul nécessitent une certaine quantité de matières premières, que ce soit des minerais ou des matériaux, et tout cela a un coût écologique et humain déplorable. En effet, l'ADEME évaluait que le coût écologique principal du numérique est pendant sa phase de fabrication et non pendant la phase d'utilisation. Ensuite, un autre point négatif qui vient de l'intelligence artificielle est qu'il permet de faire sauter le verrou du traitement humain, et donc en retirant son filtre, on laisse la création de biais dans l'interprétation des données. Donc en effet, les IA de nos jours ont une interprétation très premier degré qui ne comprend pas forcément la subtilité et la complexité d'un humain et de ses intentions. Et donc l'IA qui analyse les données récoltées risque de perpétuer des stéréotypes qui ne proviennent pas forcément d'elle directement, forcément. Hein. Mais par exemple, on remarque parfois une certaine discrimination raciale dans la reconnaissance faciale. Donc en effet, les bases de données qui lui sont fournies pour qu'elles s'entraînent ne sont pas forcément diverses. On voit beaucoup de personnes blanches. Et donc les personnes noires et asiatiques sont souvent confondues entre elles quand il en vient à la reconnaissance faciale. Cependant, je tiens juste à rappeler que dans le cas de Preligent, ce n'est pas une IA qui effectue des identifications, de la reconnaissance faciale, mais plutôt simplement des identifications de matériel et d'infrastructure. C'est donc purement de l'aide à la défense et ne présente pas le type de biais que je viens de décrire.
Merci beaucoup Andrea pour cette plongée dans les intelligences artificielles et la surveillance. Pour finir, c'est toi Evan, qui va prendre le relais et qui va nous parler d'un autre élément important dans la surveillance mais qui est encore plus souvent méconnu et oublié que ce dont on vient de parler. C'est les câbles sous-marins qui relient en fait où passe l'essentiel du trafic mondial. Donc c'est des infrastructures très discrètes mais avec des enjeux géopolitiques pourtant forts. Écoute, c'est à toi, dis-nous tout.
Merci Quentin. Donc je vais à présent conclure ce sujet de la surveillance de masse par une dernière thématique consacrée aux câbles sous-marins. Donc dans l'imaginaire collectif, l'essor des clouds et des drives de stockage de données en ligne font souvent oublier toutes les infrastructures physiques de l'Internet qui permettent le stockage de ces données, improprement qualifiées d'ailleurs de dématérialisées. Donc ces câbles sous-marins, à l'instar de nos câbles d'ordinateur qui en relient les différents composants, viennent interconnecter les continents en assurant le transit des données et l'accès mondial à l'Internet. Dans le monde, les informations échangées via Internet se doivent, au vu de leur quantité, de transiter par des moyens physiques entre les continents, et c'est la raison d'être des 530 câbles qui traversent les différents océans de la planète, d'une longueur cumulée de 1 300 000 km, soit 32 fois la circonférence de la Terre. À travers ces câbles transitent la majeure partie des échanges sur le réseau Internet, comme par exemple des données sensibles de gouvernement, de chefs d'entreprise, mais également la masse de données liées à tous les internautes que nous sommes. Tout cela est évidemment de nature à intéresser les agences de renseignement gouvernementales des grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, mais également les membres du G7. Ces agences recourent principalement à deux méthodes pour accéder à ces câbles, puis filtrer les données qui les intéressent. On a tout d'abord le repérage sous-marin par l'intermédiaire de bateaux, souvent sous couvert de recherches académiques de nature océanographique. Ces bateaux sont généralement équipés de petits sous-marins radiocommandés, capables de descendre aux profondeurs auxquelles se trouvent les câbles, généralement entre 2000 et 8000 mètres. C'est une moyenne en profondeur. Et cette méthode sert surtout à des fins de repérage, de cartographie, en vue de potentiellement les saboter, bien plus que pour y puiser directement des données. La deuxième méthode, le deuxième lien que les services de renseignement ont vis-à-vis de ces câbles, c'est l'espionnage dit littoral, donc qui consiste à repérer la localisation de la zone d'arrivée terrestre des câbles, donc en zone côtière. où se situe très souvent un bâtiment de contrôle connecté au câble qui affleure à la surface. Donc il est alors relativement aisé d'y placer en toute illégalité, bien évidemment, un dispositif de prélèvement de données, des données recherchées, numéro de téléphone, mail, etc. En ce sens, la péninsule de Cornouailles en Angleterre est particulièrement stratégique avec l'arrivée de plus de 70 câbles, mais aussi la région de Marseille qui concentre l'arrivée de nombreux câbles du bassin méditerranéen. Donc vous allez à présent plonger au fond de l'océan au plus près de ces autoroutes sous-marines de données que sont ces câbles. En écoutant cet extrait audio de l'AFP à propos de leur structure interne et de leur technologie.
Internet, téléphone ou encore télévision, nos télécommunications circulent à la vitesse de la lumière d'un continent à l'autre. Elles sont transmises par un gigantesque réseau de câbles sous-marins de près de 800 000 km qui assure aujourd'hui la transmission des données. Depuis la pose du premier câble de communication transatlantique en 1859, qui avait fonctionné seulement 20 jours, les techniques ont beaucoup évolué. Composées de plusieurs fibres optiques fonctionnant par paire, une pour chaque sens de transmission, leur débit avoisine les 4 terabits par paire, soit 200 000 fois plus qu'une connexion ADSL classique. Une gaine, composée de divers matériaux métalliques et plastiques, permet au câble d'être à la fois solide, résistant et flexible, étanche et conducteur d'électricité. Le courant électrique permet au répéteur, disposé tous les 100 km, de retraiter et réémettre le signal qui se dégrade après une certaine distance. Des bateaux, appelés câbliers, sont spécialisés dans l'installation et la réparation des câbles. Après un choix judicieux de tracé et une étude des fonds marins, les câbles, entièrement préparés à terre, sont déposés à même le fond marin. Près des côtes, ils sont soit protégés, soit enterrés pour éviter qu'ils ne soient dégradés, notamment par les filets de pêche. Avec l'essor d'Internet, ces câbles sont devenus un enjeu économique et stratégique considérable.
Dans tout cela, il n'est évidemment bien plus question d'infrastructure, mais bien de stratégie à la fois politique et militaire. Donc la nécessité aussi bien politique que militaire de prendre des décisions doit se reposer sur de solides informations concernant les événements du monde à venir, les intentions des puissances adverses, etc. Et ce, à tous les niveaux, politique, militaire, économique et industriel. Et c'est parce que toutes ces informations sont obligées de transiter par ces câbles qu'il est vital pour toute puissance de pouvoir y avoir accès. Chaque puissance ayant ses principaux objectifs politiques, la nature des données collectées ou surveillées par chacune d'elles est variable. Par exemple, la Chine, tout comme l'Europe, va avoir intérêt à espionner les intentions politiques américaines concernant des mesures de protectionnisme économique, notamment concernant le Chip Act ou l'Inflation Reduction Act qui ont été passés il y a un peu plus d'un an. Essayons ainsi d'anticiper ces pertes de parts de marché dues à ces mesures protectionnistes adverses et de réfléchir à un moyen efficace de les contrecarrer, voire même de contre-attaquer tout simplement. Mais ce n'est pas tout. La Chine va collecter du renseignement politique concernant des éventuelles intentions américaines, de sanctions ou de réactions militaires en cas d'invasion de Taïwan, par exemple. Mais aura de surcroît également intérêt à espionner le gouvernement taïwanais. Toutes ces thématiques-là vont réciproquement intéresser les États-Unis, qui vont également espionner les intentions chinoises ou russes, notamment concernant la guerre en Ukraine. Tout l'enjeu est d'essayer de déterminer la nature des décisions et la détermination qui anime cette puissance pour les mettre en œuvre, quoi qu'il advienne. Enfin, un autre enjeu est celui de la privatisation de ces câbles sous-marins par certaines entreprises comme Google, qui venant se mêler aux problématiques citées précédemment, donc liées aux agences gouvernementales, va créer des situations de plus en plus complexes impliquant acteurs privés et acteurs publics. En définitive, les liens entre services de renseignement, intérêts politico-économiques mais également géopolitiques sont complexes et inextricablement liés et d'une importance capitale pour toute puissance.
Merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, il y a des étudiants et des étudiantes de W1 qui sont actuellement en train de nous écouter à la radio et qui posent leurs questions sur un canal Mattermost. Et je les retranscris ici. Alors, vous pouvez, n'hésitez pas à répondre, même si ce n'est pas tout à fait votre partie. Une première question d'Achille, c'était de savoir, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des répercussions de l'affaire Snowden, donc pour rappel, la surveillance de masse opérée par la NSA aux États-Unis, sur la perception et les pratiques de la surveillance de masse en France ?
Personnellement, je ne suis pas sûre que... au niveau des répercussions. Non, je pense que je ne suis pas la mieux placée.
Personnellement, de ce que je sais de l'affaire, M. Snowden a reçu l'asile de la part du président Poutine, donc a certainement pu trouver refuge dans une ville où il se réfugie actuellement en Russie. Et je ne pense pas qu'il ait pu collaborer avec les services russes pour les aiguiller quant à la façon de mener les mêmes pratiques que la NSA, mais c'est en tout cas un signal fort de la part de l'exécutif russe vis-à-vis de cet homme qui voulait la vérité avant les intérêts.
Parce qu'il est recherché donc, par les États-Unis, il est sous mandat d'arrêt en quelque
il
sorte.
Il me semble qu'il fait l'objet d'une notice rouge de Interpol.
Ouais. Ouais. Peut-être que, en tout cas en France, on en a pas mal entendu parler, donc peut-être que ça a fait émerger dans la tête des citoyens l'idée qu'il pouvait y avoir de la surveillance de masse. Il y a des associations qui travaillent dessus, mais effectivement, je crois pas à ma connaissance non plus. Tu voulais dire quelque chose ?
Concernant le contexte de la loi de 2015, c'est notamment un point qui est beaucoup apparu de la part des associations, cette surveillance de masse, et notamment dans l'audio, c'était clairement dit que c'était liberticide. Et cet audio date de 2015, ça reflète un peu bien le contexte dans lequel on était.
Parce que c'est quoi, c'est 2013, hein, Snowden, hein,
oui, quelque chose comme ça, hein. Juste avant.
Okay. Ouais, Snowden avait divulgué aussi des informations comme quoi les opérateurs téléphoniques français, dont Bouygues Télécom, donnaient aux États-Unis des informations sur les Français.
Ok, je savais pas. Merci beaucoup. Est-ce que Anna demande si l'utilisation du logiciel, du coup Andrea, dont, non c'est Andrea qui parlait
ouais,
du logiciel, ça, de repérage des armes par satellite, est-ce que ça pourrait pas créer un risque de surveillance de masse plus généralisé sur d'autres territoires ?
Alors, pour l'instant, Preligens est spécialisé dans le matériel de guerre ou alors pour créer des sortes de cartes, entre guillemets, quand on peut avoir une photo d'un endroit désertique au Maghreb par exemple, Preligens pourra déterminer les habitations, les murs, tout ça lors des opérations spéciales la nuit pour qu'il puisse avoir une carte détaillée de l'endroit. Après, pour la surveillance de masse de la population, je suis pas sûre, peut-être du territoire. On en parlait comme quoi les impôts peuvent s'en servir pour surveiller les habitations des gens, savoir s'ils ont mis des piscines illégales ou quoi. Mais au niveau de la surveillance de la population, je ne suis pas sûre, non.
Merci beaucoup. Une question d'Emmanuel sur les câbles sous-marins. Est-ce qu'il existe des alternatives à l'utilisation de câbles sous-marins ? Et si oui, est-ce que ces alternatives seraient moins susceptibles d'être attaquées ?
Alors, à ma connaissance, il n'existe pas d'alternative viable aux câbles sous-marins, compte tenu du débit d'informations qui circulent. Évidemment qu'il y a des communications qui se font par satellite, mais on n'est absolument pas dans le même registre, dans le même ordre de grandeur concernant les débits de données qui circulent. Non, à mon sens, ça reste le moyen le plus efficace et le plus économique de faire transiter des données, compte tenu du fait que les câbles utilisent la technologie des fibres optiques, ce qui fait transiter les informations à la vitesse de la lumière.
Ouais, récemment, on a entendu Elon Musk qui a lancé énormément de satellites pour faire son réseau Starlink.
Starlink,
là,
oui.
Il y a des accès qui passent par là.
Qui passent par là, effectivement. Et on peut même se rendre compte que ça a un impact dans l'actualité, puisqu'il a momentanément fourni l'accès aux forces armées ukrainiennes pour coordonner leurs frappes d'artillerie sur l'armée russe. Donc on voit que finalement, quel que soit finalement le moyen de transit des données, il y a toujours un enjeu colossal qui repose dessus. Et là, en l'occurrence, c'est le secteur privé, donc avec l'entreprise de M. Musk, et en lien avec les forces armées ukrainiennes, donc une entité publique. Donc de plus en plus, on aura, ce que je disais à la fin de mon intervention précédente, des intrications, entre guillemets, entre le secteur public et les entreprises privées en lien avec ces modes de communication.
Ok, et donc du coup, est-ce que c'est plus difficile d'attaquer les satellites que la fibre optique, par exemple, d'empêcher l'accès à Internet ? Est-ce qu'on peut le faire avec les satellites ou...
Alors, je ne suis pas expert en informatique, mais on a vu que... récemment, la Russie avait envoyé un missile dans l'espace qui avait effectivement détruit un satellite. Donc je pense que le fait que la Russie développe des armes contre les satellites prouve deux choses. Premièrement, que les satellites sont un enjeu capital, au même titre que les câbles, mais qui n'ont pas trouvé de moyens informatiques de pouvoir les réduire à un état défaillant ou d'inutilité. Et donc, il faut toujours utiliser des moyens physiques de frappe militaire pour supprimer leur usage.
Merci beaucoup. Alors, encore une petite question sur les câbles. Il y avait Anna, je crois qu'il y a un truc qui n'a pas été bien compris, qui demandait s'il y avait un moyen technique de bloquer les ondes de l'intérieur du câble vers l'extérieur. Je pense qu'elle avait compris qu'on pouvait écouter en se mettant autour du câble.
Oui.
Mais ça, c'est pas possible, on est d'accord. Et les informations passent à l'intérieur.
Oui. Alors, le plus simple aurait été finalement qu'il y ait une représentation, mais on est à la radio, on ne peut pas vraiment faire de représentation. Mais les câbles sont... Ce sont des câbles, en fait, qui sont, comment dirais-je, c'est une multitude de câbles coaxiaux, sous forme de faisceaux tressés, qui ont des gaines d'une grande épaisseur pour pouvoir les protéger, et qui, comme je le disais, donc font circuler les informations par fibre optique, c'est-à-dire que il y a une réflexion sur les parois du câble qui se fait de manière extrêmement rapide, donc comme je le disais, à la vitesse de la lumière. On ne peut pas puiser directement des informations dessus, et il faut vraiment mettre un moyen, un dispositif, au niveau du littoral. Impossible autrement, il n'y a pas de rayonnement ou quoi que ce soit qui permette d'intercepter sous forme d'onde. Vraiment, tout est, je dirais, une transmission mécanique. Voilà.
Et du coup, Elsa demande pourquoi des gens veulent saboter les câbles.
Eh bien, quand on sait la multitude de services et d'intérêts qui reposent sur ces câbles, aussi bien militaires que privés, on peut facilement deviner qu'un sabotage des câbles pourrait supprimer beaucoup de fonctions politiques, militaires et entrepreneuriales. Et donc, ça mettrait en péril potentiellement l'économie de plusieurs pays tout entiers.
Ça marche, merci beaucoup. Maxence, je me demandais... Armen demandait quel est le but de l'État français de surveiller massivement ses citoyens. Bon, c'est une question un peu large. Je la reformulerais peut-être en demandant... Est-ce qu'on a des exemples qui ont été, par exemple, fuités de comment est-ce que l'État français a pu utiliser son arsenal de surveillance? Et aussi, comment s'assurer qu'il n'est pas utilisé à des fins qui ne sont pas prévues dans la loi, dans la mesure où c'est plus un juge qui donne l'autorisation de lancer une surveillance, mais directement, tu l'as dit, le cabinet du Premier ministre, donc l'exécutif?
Alors, à ma connaissance, je n'ai pas d'exemple à donner de surveillance massive. Je sais que l'article du Monde dont j'en ai parlé de 2015 reflétait du coup un moyen qui a été utilisé par la DGSE pour traiter des informations sur le net. Mais il semblait que c'était un moyen qui ciblait les gens par un système d'algorithme. Après, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de surveillance de masse par l'État français, en fait, on ne peut pas l'affirmer. On sait juste que techniquement, ils en ont les moyens. Et après, c'est le rôle de la CNCTR, la Commission nationale du renseignement, de contrôler ce que fait les services de renseignement.
Ok, merci beaucoup. Andrea, Gurvan se demandait, ou Gurvan, je sais pas, désolé, est-ce que l'intelligence artificielle est réellement précise dans le traitement des données dans le cadre de la surveillance? Je pense qu'une manière de reformuler ça, ce serait aussi, est-ce qu'elle fait plus ou moins d'erreurs, entre guillemets, qu'un humain, de façon générale, avec ce qu'on a aujourd'hui?
Alors, au niveau du traitement des données, c'est-à-dire ranger les données dans des cases ou alors les discrétiser, non, j'aurais tendance à dire, elle ne fait pas d'erreur parce qu'elle est entraînée pour ça. Par contre, il y a des biais qui font qu'elle peut mal interpréter une information sans que ça soit faux, sans qu'elle ait fait d'erreur dans le traitement des données. Mais juste, nous, on n'en ressort pas l'analyse qu'on attendait, quoi.
Peut-être parce que tu disais les données d'entraînement sont pas suffisamment
voilà, par exemple,
précises ou comportent des biais. D'accord.
Ouais.
Et une dernière question que j'aurais un peu pour vous tous, un peu prospective, c'est est-ce que, enfin, d'après ce que vous savez, c'est quoi un peu le futur de la surveillance en France par les services de renseignement, par les villes? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place en ce moment et pour les années à venir?
Si vous voulez, je peux démarrer sur la thématique.
Vas-y.
Il y a beaucoup de problématiques liées aux droits humains, notamment dans le partage de notices rouges, Interpol notamment. Des pays qui font partie d'Interpol mais qui ne seraient pas des pays démocratiques, pourraient diffuser par exemple une notice rouge qui obligerait tous les pays membres d'Interpol à rechercher une personne, alors que cette personne-là pourrait très bien être un opposant politique dans son pays d'origine. Donc là, on a par exemple un premier exemple de coopération de services de renseignement qui pourrait forcer à faire des choses immorales. Et c'est un premier exemple. Et, mais il y en a une multitude d'autres. Peut-être que mes collègues vont en avoir.
Bah, d'un point de vue législatif, il n'y a pas de projet de loi à l'heure actuelle sur... refondre cette loi de 2015. On considère qu'elle fonctionne relativement bien. Il y a même eu une commission de l'Assemblée nationale en 2020 qui a traité l'efficacité de cette loi-là. Et ce qui était ressorti, c'est que globalement, elle répondait à ses objectifs. Donc en soi, sur le futur, d'un point de vue législatif, pour le moment, c'est un peu statu quo.
Je pense qu'avec la loi du RGPD, les Français sont relativement protégés de la surveillance de masse. Après, de la surveillance ciblée, non, enfin, les services de renseignement vont faire ce qu'ils ont besoin de faire pour mener à bien les intérêts du pays. Donc on en avait discuté dans la loi, c'est dans le cas de terrorisme ou d'intégrité du pays, les services de renseignement peuvent et vont surveiller qui ils ont besoin. Mais dans le cas de la surveillance de masse, avec le RGPD, je pense que les Français sont relativement protégés.
Oui, juste pour ajouter quelque chose, on voit que dans certains pays, les politiques en matière de renseignement sont de plus en plus débridées. Par exemple, avec une firme israélienne qui commercialisait un logiciel appelé Pegasus, qui a été acheté notamment par les services secrets marocains et qui s'est finalement retrouvé à espionner le téléphone de notre président, M. Macron. Donc on voit que finalement, dans certains pays, je pourrais même citer l'Arabie Saoudite, qui est un pays dirigé par une seule famille, finalement. On voit finalement qu'entre le dirigeant et son cousin ou son oncle, qui serait le ministre des armées ou chef des services de renseignement, rapidement, l'absence de cloisonnement entre les différents ministères peut conduire à des actions complètement débridées en termes de politique de renseignement.
Oui, puis juste un mot sur Pegasus. On en a pas mal entendu parler, mais en fait, c'est souvent, de mon point de vue, des pays qui n'avaient pas les moyens de développer une telle technologie qu'ils l'ont achetée. En fait, c'est sûrement la pointe hébergée de l'iceberg. Je pense vraiment que, par exemple, les services de renseignement états-uniens ont l'équivalent de Pegasus, mais développé en interne. Ils n'ont pas besoin de l'acheter à Israël, quoi.
Un exemple sur Pegasus, c'est que c'est un service de renseignement donc, qui est créé par un État, mais qui est vendu à des privés, entre guillemets. Par exemple, les cartels mexicains sont soupçonnés de s'en servir. Et ce qui pose un gros problème au gouvernement mexicain, c'est que bah, du coup, les cartels qui gangrènent le pays ont accès à une certaine surveillance du pays.
Ouais, oui, par contre, il faut préciser que les développeurs Pegasus, c'est l'entreprise, c'est le nom du logiciel.
C'est le nom du logiciel, hein. Oui.
L'entreprise derrière, je me rappelle plus comment elle s'appelle, nie toute vente à des États autoritaires,
oui,
ou à des...
Pas toujours.
Bien sûr, mais on ne sait pas vraiment.
Oui, effectivement. Mais on avait une autre affaire similaire dans les années 80 en Suisse. Une firme d'espionnage qui commercialisait un logiciel espion qui était au bord de la faillite et qui a été racheté en toute discrétion par la CIA. Sans que personne ne le sache, et les talibans étaient clients de cette société. Okay. Et pendant une vingtaine d'années, ils ont échangé des messages qui étaient lus par la CIA sans même le savoir.
Ouais, donc c'est un monde très opaque finalement, dont il y a quelques affaires qui nous parviennent. Peut-être que en France, on pourrait aussi noter, et je pense que le prochain groupe en parlera, alors c'est un petit teasing, mais qu'il y a des expérimentations qui sont en cours sur la vidéosurveillance algorithmique, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des réseaux de caméras qui ont de la détection automatique de comportements suspects dans des foules par exemple, et que ça c'est dans le cadre des Jeux Olympiques et de je sais plus quelle compétition de rugby. Et du coup, là, en ce moment, et dans les transports et sur Paris, on a énormément des dizaines de milliers de caméras qui fonctionnent de manière un petit peu automatique pour prévenir. Là, il se passe quelque chose, là, il y a quelqu'un qui est à terre. Là, Donc, peut-être une nouvelle évolution aussi en France, en tout cas dans l'arsenal technique. Et légal, on est qu'au début. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois pour cette présentation.
Merci.
On reprend dans une vingtaine de minutes avec le prochain groupe. D'ici là, un petit peu de musique. Bon après-midi à vous. À tout à l'heure. Ciao.